Simone de Beauvoir, 1978.
J'étais très très heureuse une fois que j'ai eu passé mes bachots et que j'ai pu aller à la Sorbonne, à la Bibliothèque Sainte-Geneviève et travailler dans un autre climat que celui de la maison.
En 1924, Simone de Beauvoir a 16 ans et elle est reçue au baccalauréat avec la mention « bien » dans les deux séries, lettres et mathématiques. Ce diplôme lui ouvre le chemin de l'université et d'une vie à inventer. Beauvoir est une enfant des années 20. C'est la première étape vers la liberté.
J'ai envie que les gens me connaissent. Parce que parmi les gens qui me lisent en particulier, il y en a beaucoup qui se trompent tout à fait sur mon compte. Et parmi les gens qui ne m'ont pas lu mais qui ont entendu parler de moi, il y en a également beaucoup qui se trompent sur mon compte.
La famille Bertrand de Beauvoir sort désargentée de la guerre de 14. Un déclassement qui va s'avérer être une aubaine pour Simone et sa sœur. Les deux filles Beauvoir sont obligées d'emprunter un itinéraire différent de celui de leur mère.
J'espère, mon enfant, que tu vas t'efforcer de nous faire honneur.
N'ayant plus de dot à offrir, elles devront travailler.
Soyez toujours joyeuses, en toutes circonstances. Le travail n'est pas triste, il est gai, il élève.
Dans ce deuxième épisode, vous allez comprendre comment, au cœur des années folles, les études supérieures ont servi de sas à Simone de Beauvoir pour passer d'un monde à un autre. C'est le début du grand voyage.
J'ai jamais pensé que j'avais raté ma vie. Je suis extrêmement contente de ma vie puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie. Deuxième épisode, au devant de la vie.
Je m'efface donc maintenant pour donner la parole à Simone de Beauvoir.
J'ai commencé à vouloir vraiment écrire vers 15 ans. Je voulais écrire pour retenir quelque chose de la vie. Mais c'était primordial chez moi, vivre.
Mais pourtant, vous avez eu une éducation très bourgeoise.
C'est pas une raison pour aimer la bourgeoisie. Je souhaite que les femmes deviennent des êtres humains qui soient absolument autonomes et responsables d'eux-mêmes comme les hommes.
Comme le Capital de Marx sert de référence idéologique aux communistes, les féministes du monde entier, aujourd'hui, se réfèrent au deuxième sexe.
En septembre 1914, Simone de Beauvoir a 6 ans et elle se confesse pour la première fois avec l'abbé Martin dans son école catholique, le cours d'Eusire. Au même moment,
en quelques heures,
les hommes partent à la guerre.
La population mâle de l'Europe est jetée sur les routes vers une destinée incertaine.
Et les femmes sont appelées à rejoindre les usines d'armement qui doivent alimenter le front.
1914.
Et ces nouvelles ouvrières ont un surnom.
Les munitionnettes, un mot nouveau dans la langue française. Sous une apparence dérisoire et légère, ils désignent des ouvrières des usines de munitions.
Ces munitionnettes ont amorcé un grand mouvement de fond pour les femmes durant la Grande Guerre.
Comment devenir rameneuse, factrice, éboueuse? Comment être à la mode en temps de guerre? Comment se parer avec un drapeau, mais aussi comment devenir libre en travaillant?
Entre 1914 et 1918, un grand nombre de femmes goûtent à la liberté et à la dignité qu'offrent un travail et un salaire. Et puis, ce n'est pas tout.
Elles s'aperçoivent qu'au fond, l'usine, c'est presque plus drôle que le ménage.
L'historienne Michel Perrault.
Que être ménagère enfermée dans sa maison, sans gagner d'argent, c'est pas drôle. Là, elles travaillent, elles ont des copines, des camarades, elles vont, elles viennent, elles sortent du travail, elles ont un trajet libre, elles gagnent elles-mêmes leur argent. Voilà. Elles peuvent contrôler leur budget. Et à la faveur de la guerre, les salaires augmentent. Donc, elles ont accès à de l'argent qu'elles ne géraient pas auparavant. Autrement dit, elles découvrent des formes de la liberté, des formes de sociabilité. Elles entrent dans des syndicats. Elles font même des grèves. Hein, il y a des grèves en 1917 qui sont des grèves ouvrières. C'est un autre monde. Et on pourrait continuer. Elles conduisent des taxis, elles conduisent des bus, elles labourent. alors que le labour dans la paysannerie, c'est vraiment quelque chose que faisaient seulement les hommes. Autrement dit, partout, la guerre a été une ouverture des femmes au travail, à l'espace, à la sociabilité, à l'argent, à la fréquentation d'autres personnes, une ouverture vers la liberté. Et ça sera particulièrement difficile pour elles d'abandonner cela au moment de la fin de la guerre en 1918.
Ça y est, l'armistice est signé.
C'est la victoire.
Hosanna, Hosanna, l'armistice est signé.
7 liberté conquise par l'expérience de la guerre a eu des conséquences bien réelles dans la vie des femmes des années 20.
Oui, parce que l'expérience de la guerre est inoubliable et que beaucoup de femmes ne veulent pas retourner dans l'état ancien. Et ça va être à l'origine, dans les villes peut-être, plus qu'à la campagne, de ce qu'on va appeler la garçonne. La garçonne, c'est-à-dire une jeune femme émancipée qui veut ce qu'ont les hommes. Et d'ailleurs, ça caractérise Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, elle voulait les droits des hommes, ce que faisaient les hommes, les espaces des hommes, pouvoir fumer, pouvoir conduire sa voiture, etc. etc. Donc, oui, les années folles, comme on a dit, les années 20-25, sont des années de jeunesse de Simone de Beauvoir. C'est vraiment une volonté d'émancipation et une possibilité d'émancipation. Du moins, dans certains milieux, notamment à Paris, dans les grandes villes.
J'avais raccourci la robe, mais pas trop, parce que j'avais une mère qui n'était pas ni pour les cheveux coupés, ni pour les robes courtes. Pour me faire couper les cheveux, il a fallu que je me bagarre pendant 2 ans. C'était ma passion d'avoir les cheveux coupés.
Mais tu es comme moi, toi aussi, une jeune fille d'aujourd'hui. Tu t'es coupé les cheveux, tu as lu La Garçonne, tu relis Le Diable au corps. À Paris, tu fréquentes Le Bœuf sur le Toit.
Oh, tu te rappelles, Vienner était au piano. Il jouait cet air-là.
Mais d'un autre côté, la France de l'après-guerre, politiquement, est une France conservatrice. La Chambre Bleu Horizon, comme on disait, a été élue. C'est une chambre très à droite. Et cette chambre-là ne parle que de natalité. Il faut reconstruire la France. Il faut que les familles aient beaucoup d'enfants. Il faut pas que les femmes travaillent. Il faut qu'elles soient mères de famille, ménagères, etc., etc. Ça va être le début, dans les années 30, de ce qu'on va appeler les allocations familiales, c'est-à-dire de l'argent que l'État donne en fonction du nombre de naissances. Et bien entendu, plus vous aurez d'enfants, plus vous aurez d'argent. On va vous donner quelque chose pour pousser aux familles nombreuses. Autrement dit, il n'y a pas grand-chose de changé par rapport à l'avant-guerre 14. Et on pourrait même dire que la République de l'entre-deux-guerres, affrontée à une démographie atteinte évidemment par l'hécatombe de la guerre, et encore plus nataliste que ça ne l'était avant 1914. Donc, c'est très ambigu, le statut des femmes. Très, très ambigu.
Ambiguïté, donc, entre l'émancipation de la garçonne et le retour au foyer pour une grande majorité des femmes françaises, puisque la République lance une politique nataliste. Alors, que dire maintenant des femmes de la bourgeoisie française durant la Grande Guerre ? Un historien des élites sociales, Bertrand Goujon, a travaillé sur des journaux intimes de ces femmes bourgeoises entre 1914 et 1918. Et il a été frappé par une expression qui revient souvent sous la plume de ces maîtresses de maison. « Je maintiendrai ». Qu'est-ce que cela signifie ?
Alors cette expression « je maintiendrai », elle signifie très clairement cette volonté, en dépit des difficultés que suscite la Première Guerre mondiale, de conserver son rang et également de faire face à l'adversité avec un cran qui doit témoigner des valeurs morales dont se réclament ces élites, et en l'occurrence notamment les élites nobiliaires, mais les élites bourgeoises ont elles-mêmes leur propre corpus de valeurs qui justifie cette volonté de tenir et de maintenir. et peut-être même encore plus d'ailleurs dans le cas de la bourgeoisie, puisque une famille noble qui se déclasse en quelque sorte reste malgré tout noble. En revanche, se déclasser quand on est un bourgeois ou une bourgeoise, c'est courir le risque de sortir littéralement de sa classe sociale et de se retrouver finalement noyé dans les classes moyennes ou même dans les masses, dans ces couches populaires desquelles on peut finalement peiner à vous distinguer. Et donc c'est tout l'enjeu obsessionnel pour un certain nombre de ces femmes de la bourgeoisie comme de la noblesse que d'éviter autant que possible ce déclassement qui pourrait compromettre après-guerre leur maintien non seulement individuel mais également par extension le maintien de leur famille au sein des élites françaises.
Or, la famille Bertrand de Beauvoir ne se maintient pas une fois la paix signée. Les parents de Simone de Beauvoir sortent fragilisés et désargentés de la guerre.
Vous connaissez notre situation, on ne sait pas l'améliorer.
Souvent, Dieu se plaît à éprouver celle de ces créatures qu'il a particulièrement distinguées.
Il est vraiment trop bon pour nous.
Au point que leurs filles n'auront pas de dot en vue d'un mariage. Un détail qui a son importance.
Ne pouvant être dotée, Simone de Beauvoir peut difficilement prétendre à un beau mariage dans une famille où elle aurait pu devenir une maîtresse de maison et une mère de famille menant le même genre de vie mi-mondaine, mi-occupée par les activités pieuses que celle qu'avait menée sa mère. Donc l'horizon qui se tend à Simone de Beauvoir et qui est d'ailleurs formulé en tant que tel par le père Georges Bertrand de Beauvoir à Simone et à sa sœur Hélène, c'est l'horizon de la professionnalisation. Il faudra que ces deux filles travaillent et que dès lors, elles reçoivent la formation nécessaire pour pouvoir exercer un travail qui néanmoins ne doit pas déchoir.
Le père de Simone de Beauvoir n'a d'autre choix que d'accepter que sa fille aînée se lance dans des études supérieures. Mais au fond de lui, ce n'est pas si simple.
Il est quand même très hostile au fond de lui parce qu'il trouve qu'elle va devenir une intellectuelle, enfin, ce qu'il n'aime pas du tout.
Christophe Charles, historien.
Elle va être plus savante que lui parce qu'elle va évidemment faire des études beaucoup plus approfondies que ce que lui avait fait. Et puis elle va revendiquer son autonomie puisqu'elle pourra gagner sa vie et ne pourra plus avoir barre sur elle par l'argent, etc. Donc le climat se détériore progressivement.
Est-ce que vous êtes un peu fier de votre fille ?
Je suis rassuré. De toute façon, on n'a aucune chance de te caser, alors...
Mais pourquoi blesser Simone ? À quoi bon, Georges ?
Qui voudrait être ta fille ? Elle est laide. Et en plus, elle est pauvre. Il faudra bien qu'elle gagne sa vie.
Je pense que la chose qui n'allait pas, c'était précisément la brutalité de papa. Parce qu'il te disait toute la journée, comme tu l'aides ma pauvre fille, comme tu l'aides. Oui, parce qu'en fait, ils étaient à la fois très fiers de toi. Parce que papa, par exemple, alors maintenant, il te traitait un peu comme un boxeur qui gagne tous les championnats. Et il te poussait à faire encore plus de licences. Et papa te disait, tu devrais encore faire la licence en droit. Ça serait amusant, parce que ça l'amusait de raconter à ses amis, oh, ma
fille. Que j'avais trois licences.
Mais en même temps, il ne faisait rien pour te faciliter les choses.
Oh, non, il y a eu tout.
Devant les succès universitaires de sa fille aînée, le père envisage soudain Simone comme une championne du ring qui gagne ses combats. Alors, est-ce qu'on peut dire que le déclassement social des Beauvoir fut une aubaine pour Simone ?
Oui, alors ça, c'est une aubaine, c'est écrit après, parce que surtout c'est parce qu'elle est très bonne, hein, très bonne à l'école, et qu'elle est très douée pour les études, parce que malheureusement, il y a eu aussi des filles de son milieu qui, eux, n'avaient pas ses talents ou sa capacité de travail, et qui ont subi ce déclassement sans pouvoir réagir. Mais elle, évidemment, elle a cette chance d'être une excellente élève, elle est toujours à la tête de sa classe, visiblement, elle a une capacité de travail extraordinaire, puisqu'on voit qu'elle arrive à être très jeune, bachelière alors que d'autres le sont beaucoup plus tard. Elle va aussi faire des études supérieures très rapidement parce qu'elle avale les programmes à toute vitesse et elle fait ce qu'on fait d'habitude en 4 ans, elle le fait en 3 ans, enfin voilà. Et elle sera quand même, il faut quand même le souligner, la plus jeune agrégée de France, l'agrégation à 21 ans, ce qui est exceptionnel à l'époque. surtout pour une femme, où il y a très peu de femmes qui passent l'agrégation. Donc, c'est une chance, puisque ça a obligé son père à accepter qu'elle se lance dans des études, alors que lui, il voulait la marier, comme il aurait fait à la génération d'avant, et comme il avait fait lui-même à sa génération. Mais il a compris qu'il pourrait jamais lui payer une dot, donc il n'aurait jamais de mari du milieu qu'il souhaite, parce que les maris continuent de regarder combien une femme gagne, parce que si une femme n'a pas de travail, il faut qu'elle ait un revenu qui paye l'entretien de cette femme. Enfin, c'est la conception de cette époque. Donc, pour remplacer ce revenu qui ne viendra pas de la dot, il faut un travail. Et les travaux pour les femmes, à l'époque, il n'y en a pas tant que ça. Il y a essentiellement les professions libérales, un peu la médecine, mais ça commence tout juste. Mais on est dans un milieu très catholique, très réservé sur tout ce qui touche au corps. Donc c'est absolument impensable qu'une femme devienne médecin dans ce milieu-là. On a l'enseignement, ça c'est traditionnel bien sûr, mais en même temps on peut pas se mettre dans les écoles normales. Il faut être dans un circuit un peu à part. Donc ils vont essayer de trouver une façon d'accéder à ces titres pour être professeur, mais sans passer par l'enseignement classique. Et c'est à peu près tout. Sinon il y en a qui tentent aussi la fonction publique à l'époque, puisqu'on commence à recruter des femmes dans certains ministères, mais souvent dans des positions subalternes, évidemment, dactylographe ou des choses comme ça. Et du coup, il n'y a pas un choix énorme. Donc vous dites c'est une aubaine, oui, mais c'est une aubaine parce qu'elle a les qualités qui lui permettent d'accéder à la seule profession pratiquement qui est ouverte aux femmes dans cette société encore très, très fermée et très exclusive pour l'accès aux professions intéressantes.
Simone de Beauvoir, dans Mémoire d'une jeune fille rangée, 1958. Quand on m'astreignait à des exercices oiseux, mon esprit criait famine et je me disais que je perdais un temps précieux.
1, 2, 3, 4, descend.
J'étais frustrée et j'étais coupable. Je me hâtais d'en finir. Toute consigne se brisait contre mon impatience.
Remonter.
Dans cette entreprise d'émancipation, il y a une autre dimension essentielle chez Simone de Beauvoir. C'est un ressort intime, activé par l'observation de la vie.
Il y a sa perte de la foi qui est assez précoce finalement, c'est quand elle est adolescente qu'elle n'adhère plus du tout à la vision catholique traditionnelle que lui a transmis sa mère et dans laquelle elle a été élevée, parce qu'elle ressent une sorte de dissonance entre ce qu'ils affirment comme principe et puis ce qu'ils font vraiment. C'est-à-dire, comme c'est quelqu'un de très entier, très systématique, hein, elle n'a pas choisi la philosophie pour rien, donc c'est quelqu'un qui veut être dans une rationalité, dans une cohérence absolue entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle souhaite. Or, ce qu'elle constate, c'est que ce catholicisme de façade cache des arrangements avec la morale, puisqu'il y a quand même des maris qui trompent leurs femmes. Elle découvre ça progressivement. Donc, on nous dit le mariage, c'est sacré pour les femmes, mais les hommes, eux, ils ont un peu le droit de faire ce qu'ils font, hein, puisqu'elle s'aperçoit que son père trompe sa mère. Donc, là, il y a un décalage. Les droits sont pas les mêmes des deux côtés, alors que théoriquement, quand on est dans un mariage chrétien, c'est un engagement des deux côtés absolu. Il y a d'autre part, bien sûr, cette très forte hiérarchie sociale ressentie, puisqu'on lui dit surtout ne va pas parler avec n'importe qui, ne fréquente pas des petites filles que tu ne connais pas. Enfin, donc il y a vraiment une volonté de préservation du mélange social, alors que par ailleurs, on leur explique que tous les hommes sont frères et qu'il faut aider son prochain, etc. Donc, elle trouve qu'il y a des incohérences, des contradictions, et donc ça lui fait douter à la fois de non seulement des enseignements de cette Église, mais en même temps de ce qu'il justifie en dernier ressort, c'est-à-dire la croyance en un être suprême. Et donc ça, c'est quand même une démarche personnelle, puisque bon, je pense que son amie Elisabeth, elle, n'a pas, au contraire, complètement renoncé à ses convictions catholiques, même si elle se rebelle un peu contre sa famille, qu'elle va quand même se soumettre à un certain rituel, puisqu'on envisage son mariage, etc. Enfin, donc, elle n'est pas totalement dans la rébellion comme Simone de Beauvoir. Donc, c'est pas du tout pour revenir à une vision romantique en disant il y a les gens qui se libèrent et puis ceux qui restent conformistes, mais Il y a à la fois des effets de la situation, des effets de la transformation de la société, c'est indéniable, mais il y a aussi une personnalité évidemment spécifique, même si beaucoup de femmes de cette époque se libèrent, ou en tout cas essayent de se libérer, hein, c'est le moment où il y a les féministes qui revendiquent le droit de vote, c'est le moment où des femmes accèdent à des nouvelles positions. Le radicalisme, si vous voulez, du rejet qu'opère Simone de Beauvoir par rapport à toute cette éducation et à tous ces principes qu'elle a hérités, va beaucoup plus loin, finalement, que ce qu'on considère pour la moyenne des femmes, même les plus émancipées de cette époque.
Ma non-croyance en Dieu, à ce moment-là, et au sens de la vie, me servait aussi à faire ce qui me plaisait. Au fond, j'ai toujours voulu faire ce qui me plaisait.
Elle est préoccupée, comme une jeune fille de bonne famille, qui était catholique et croyante jusqu'à 13 ans, 12, 13 ans, par là, et qui tout d'un coup y renonce, et comme toujours, c'est net, carré, tranché, c'est ou Dieu ou moi.
Danielle Salnave, académicienne et biographe de Simone de Beauvoir.
Si Dieu existe, moi je ne suis pas libre. Et si moi j'existe, alors... Donc, le curé, avec ses remarques moralisatrices, lui a apparu avec ses jupons de bigote, donc c'est fini. À ce moment-là, sa mère le prend très mal, et sa mère la conçoit comme un monstre. Elle dit « Aux yeux de ma mère, j'étais un monstre ». Certainement, il n'y a plus cette communication qu'il y avait auparavant. Mais elle va continuer d'avoir une espèce de conscience sociale, de jeune fille catholique, de bonne famille. C'est pas seulement aller mettre deux sous dans la sébile des pauvres ou s'occuper des petits-enfants malheureux. Elle va entrer dans les équipes sociales de Garrick, qui rassemblent des jeunes catholiques, à la fois pour qu'ils aident des jeunes ouvriers et ouvrières, par exemple, à faire des études ou à lire, à connaître des belles choses, etc. Avec l'idée qu'il faut aussi que les ouvriers connaissent des belles choses. Mais avec ce sentiment que c'est son devoir, c'est sa mission. Non, c'est tout de même une jeune fille de bonne famille, tout cela.
Adolescente, Simone de Beauvoir a donc perdu la foi. Mais il n'empêche que sa rencontre avec Robert Garrick est importante.
J'étais persuadé que chez nombre de travailleurs, il y avait un désir latent, à la fois de s'élever dans le métier, d'en connaître mieux les règles, les techniques, et aussi d'avoir accès à un monde de culture générale très large.
Né en 1896, Robert Garrick était un catholique à la fibre sociale, et il fut le professeur de philosophie de Simone de Beauvoir à l'Institut Sainte-Marie à Neuilly. Et ce Robert Garrick a sans doute participé au fait que la jeune Simone ait pu voir au-delà de sa classe sociale. Le voici au micro de France Culture en 1964.
J'avais remarqué même la curiosité philosophique de quelques-uns qui ignoraient le langage philosophique, mais qui portaient en eux, comme je l'ai souvent constaté par la suite, de très grandes possibilités de réflexion personnelle.
Il ne faut pas que les femmes soient savantes. La curiosité les rend vaines et précieuses. Il suffit qu'elles sachent gouverner leur ménage et obéir à leur mari sans raisonner.
En 1924, la vie de Simone de Beauvoir croise très concrètement l'histoire des femmes en France au XXe siècle.
Pour bien des jeunes filles, ces derniers jours ont été fertiles en émotions. Examens, résultats des examens, oraux du baccalauréat...
1924, c'est l'année où elle décroche son baccalauréat.
Des noms écrits sur une feuille blanche à la porte d'une salle de classe de quelques lycées. Je suis reçue, s'écrit Mademoiselle X. J'ai même une mention, précise Mademoiselle Y.
Et ce n'est pas une année ordinaire dans l'histoire des femmes.
Les filles n'accédaient qu'exceptionnellement à l'université. Ce qui a ouvert l'âge des étudiantes, c'est le bac 1924. À partir de 1924, le baccalauréat qui est le blanc-seing pour entrer à l'université, c'est la même chose pour les garçons et pour les filles.
Et pour ces jeunes personnes, c'est le début dans la vie.
Cette réforme du baccalauréat rend le diplôme mixte.
Un jour, quelqu'un de ces noms sera peut-être célèbre.
Et permet à Simone de Beauvoir d'intégrer l'université et de se lancer au devant de la vie. Mais pour l'instant, en 1924, ce n'est pas la condition des femmes qui agite son esprit. Elle aspire à autre chose.
Simone de Beauvoir va découvrir ce qu'est la condition féminine. Ça va être sa grande œuvre après. Mais là, elle ressent la féminité comme une oppression, une limite, une exclusion. Et ce qu'elle veut, c'est franchir les frontières. C'est-à-dire avoir ce qu'ont les hommes. Mais ça, c'est très très important. Et même après la Deuxième Guerre mondiale, c'était encore ça que voulaient les jeunes femmes émancipées un petit peu plus tard. Simplement, elles avaient déjà des modèles qui étaient justement Simone de Beauvoir. Et Simone de Beauvoir a très peu de modèles féminins. Elle en découvrira un certain nombre en faisant des recherches plus tard. Hein. Mais là, c'est ce qu'ont les hommes. Voilà. C'est ça qu'elle veut, et elle n'aime pas le féminin. Et c'est tout à fait compréhensible qu'elle ne veuille pas le féminin, parce que le féminin, c'est tout ce que nous avons dit, c'est-à-dire le foyer, la maternité, la maison, des limites tout le temps, des limites, y compris dans le domaine intellectuel. C'est pas pour les filles. T'as toujours cette idée que c'est pas pour les filles. Et qu'une femme qui veut écrire, non, c'est ridicule. Or, elle, elle veut. Pour Simone de Beauvoir, l'écriture, depuis longtemps, est une aspiration absolument fondamentale. Elle a ce projet, elle a ce plaisir, et elle veut devenir une femme écrivain. Donc oui, elle a des modèles masculins.
À l'université, Simone de Beauvoir tient des cahiers de jeunesse qui nous éclairent sur ses sentiments de l'époque, notamment à propos de son amitié avec Elisabeth Lacoin, dite Zaza, son amie d'enfance, ou encore sur ses relations avec son cousin Jacques.
Les cahiers de jeunesse, eux, sont précieux. Elle est prise dans des sentiments très contradictoires. Elle sent que son amitié pour Zaza est moins vive. Elle est proche d'un cousin, Jacques, dont elle se croit amoureuse, qu'elle pense amoureux d'elle, mais ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Et l'idée du mariage est totalement intégrée, puisqu'une note des cahiers de jeunesse dit « quand nous serons mariés », ou bien elle dit qu'elle a rencontré un petit garçon qui était très joli, et elle pense que plus tard, elle aura le bonheur de trouver dans les traits d'un petit garçon, elle ne dit pas qu'elle aura une fille, elle dit « et beaucoup de féministes veulent avoir des filles ben, ». Non, elle dit dans les traits d'un petit garçon, les traits de l'homme que j'aime. Or ça, dans les mémoires, c'est fini ça, on n'en parle plus.
À la Sorbonne, elle commence à fréquenter des intellectuels de gauche. Et il faut noter qu'en 1927, Simone de Beauvoir signe une pétition pour réclamer la grâce des anarchistes Sacco et Vanzetti, condamnés à mort aux États-Unis et sans doute innocents. En tant qu'étudiante, c'est aussi la première fois qu'elle fréquente de jeunes hommes, à commencer par René Maheu, avec qui se noue une tendre et réelle amitié.
Maheu, qui l'émeut lorsqu'elle s'est fait couper les cheveux, et il passe la main dans ses cheveux en lui disant « Vous avez une tête de petit garçon ». Elle est bouleversée par ça, parce qu'elle est extrêmement sensuelle, mais dans le cadre d'une éducation qu'on peut imaginer, et qui se prolongera bien au-delà de ces années-là. Mais tout de même, elle est tout à fait émue par ce geste, et donc attirée par ce contact de ces jeunes hommes.
Et c'est bien ce René Maheu, et non pas Jean-Paul Sartre, qui lui attribue son surnom de castor.
Sur Beauvoir, il fait un jeu de mots avec l'anglais beaver qui est effectivement veut dire castor. Il dit vous êtes comme un castor parce que vous avez l'esprit constructeur, vous vivez en bande et vous avez l'esprit constructeur. En tout cas, Simone de Beauvoir là est à l'aise au milieu de ses garçons parce que c'est un cerveau. Et d'ailleurs, son père lui dit
j'ai toujours dit tu as un cerveau d'homme. Décroche tes deux diplômes, il le faut.
Alors qu'elle suit les cours à l'école normale, en 1928, Simone de Beauvoir fait la rencontre de Jean-Paul Sartre, lui aussi un gamin de la bourgeoisie. Mais de quelle bourgeoisie? De qui est-il le fils?
Son père est mort très jeune, quand il avait 15 mois, donc il ne l'a pas connu. Le père de Jean-Paul Sartre, le père biologique de Jean-Paul Sartre, était polytechnicien. Bizarrement, alors qu'il avait été classé assez bien à les sorties de l'école polytechnique, ce qu'on appelle la botte, c'est-à-dire les 30 premiers, il aurait pu envisager d'être, par exemple, ingénieur des ponts et chaussées. Et il refuse ça, alors que c'est ça qui ouvrait quand même à des carrières prestigieuses. Et au contraire, il a, semble-t-il, une fantaisie, il veut entrer dans la marine, ce qui n'est pas du tout la destinée normale d'un polytechnicien, semble-t-il, parce qu'il veut faire des voyages, parce qu'il veut découvrir le monde. Enfin, il y a sans doute un imaginaire aventureux qui le pousse dans cette direction. Et pour son malheur, c'est là qu'il va contracter des maladies qui vont amener sa fin prématurée. Du coup, la mère de Jean-Paul Sartre se retrouve un petit peu, elle aussi, déclassée d'un certain point de vue, puisqu'elle n'a plus de mari, et elle se retrouve obligée de revivre avec ses parents, donc son père à elle, qui s'appelle Schweitzer, qui est apparenté au célèbre docteur Schweitzer, qui est un professeur agrégé d'allemand, donc là on est dans une bourgeoisie intellectuelle, qui est un Alsacien extrêmement patriote, qui regrette évidemment la perte de l'Alsace et la Lorraine. Il y a un des passages dans les souvenirs de Sartre qui évoque puisque au moment de la guerre de 14, évidemment, c'est quelque chose qui devient très, très présent. À l'époque, Sartre a 9 ans, donc c'est des souvenirs réels. On ne peut pas dire que c'est reconstitué. Et donc, ce grand-père va pousser son petit-fils, en quelque sorte, ça va être une sorte de fils de substitution, vers les études. Et il va être son professeur personnel, puisque les premières années de sa vie, il n'irait pas à l'école ou il n'ira pas dans un collège. Il sera formé par son grand-père qui, comme il est à la retraite, peut s'occuper complètement de son petit-fils. Donc on est dans une éducation là, de transmission directe, en quelque sorte, du capital intellectuel et culturel du grand-père au fils. Donc là, on est dans une bourgeoisie vraiment intellectuelle. C'est totalement différent de ce qu'était l'attitude, évidemment, du père de Simone de Beauvoir. Et troisième élément, la mère de Jean-Paul Sartre, évidemment, se trouve toujours seule, mais elle se dit que c'est pas non plus très viable, dans une société qui reste une société dominée par les hommes, de ne pas avoir de mari, quand on a un fils quand même qui est très petit. Et elle va se remarier, et ça va être un nouveau drame pour Jean-Paul Sartre, puisque d'une part il va perdre cette relation privilégiée avec son grand-père, puisqu'ils vont quitter Paris, ils vont aller vivre à La Rochelle, là où travaille le beau-père de Jean-Paul Sartre. Et ce beau-père est lui aussi un polytechnicien, mais alors justement un polytechnicien qui a pantouflé et qui est devenu chef d'entreprise. Et l'entente va être très très mauvaise, puisqu'on est dans une bourgeoisie là, industrielle, une bourgeoisie très attachée à l'ordre, à l'autorité, à la hiérarchie. Enfin, il y a des choses assez dures dans les souvenirs de Jean-Paul Sartre contre son beau-père. Et donc là, il se retrouve dans la bourgeoisie traditionnelle d'entreprise, alors que lui venait plutôt d'une bourgeoisie intellectuelle. Donc là, on a une sorte de choc entre deux fractions de la bourgeoisie. Et on peut penser que la haine que va nourrir tout au long de sa vie Jean-Paul Sartre dans tous ses écrits contre la bourgeoisie, c'est vraiment des règlements de compte, bien sûr, sociaux, mais aussi un règlement de compte familial de l'intellectuel contre la bourgeoisie économique qui est personnifiée pour lui par son beau-père, dont il souffre de l'autorité parce que c'est pas son vrai père et il est quand même obligé de lui obéir. Donc il y a une situation un peu comme une lutte sociale interne à la bourgeoisie qu'on retrouve dans cette famille.
Beauvoir et Sartre, deux enfants rebelles de la bourgeoisie, devenus jeunes couples parisiens.
Après une délibération
reçu à l'agrégation de philosophie le même jour, le 30 juillet 1929.
Déclare définitivement admis les candidats suivants. Monsieur Sartre, Jean-Paul.
Lui termine premier avec 87,5 points sur 110.
Deuxième, mademoiselle Bertrand de Beauvoir, Simone.
Elle, deuxième, avec 85,5. Dans la foulée, Simone de Beauvoir quitte son domicile familial.
Je veux quitter la maison. Je me prendrai une chambre, père.
C'est hors de question. Nous n'avons pas fait tous ces sacrifices pour que tu finisses dans le ruisseau. C'est pas possible. Ce jeune homme t'a fait perdre la raison.
Laissez Sartre en dehors de tout ça. Je vis seule. D'ailleurs, il m'a rien demandé.
Il n'a plus rien à te demander, ma pauvre fille. Il a déjà eu tout ce qu'il voulait. Mais enfin, Georges, parlez-lui, voyons.
À l'automne 1929, Simone de Beauvoir entame sa vie de liberté. Tandis que son amie d'enfance, Elisabeth Lacoin, reste prisonnière de son milieu. Simone rencontre Zaza une dernière fois, par hasard, le 7 novembre, dans un restaurant sur les Grands Boulevards, à Paris. Les jours suivants, Elisabeth dépérit, victime d'une méningite infectieuse. Elle meurt le 25 novembre, elle avait 21 ans. Dans ses mémoires, en 1958, Simone de Beauvoir met des mots forts sur cette mort.
Le grand crime spiritualiste. Le spiritualisme de la famille Lacoin, catholique, pour Simone de Beauvoir, c'est la même chose. La foi religieuse, l'ordre social, la contrainte maternelle, et abandonnant Zaza à la mort. Pour Simone de Beauvoir, c'est une épreuve plus violente dans les mémoires que dans les cahiers de jeunesse. C'est très frappant. Dans les cahiers de jeunesse, c'est pas le ciel qui lui tombe sur la tête. Elle est déjà éloignée de Zaza. Mais dans les mémoires, elle va reprendre en main cette affaire et dire à ce propos une phrase dont je n'ai jamais tout à fait fini d'explorer le sens, et j'ai payé ma liberté de sa mort. Je la garde toujours comme une phrase dont je ne sais toujours pas exactement le sens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en effet qu'elle-même a échappé à ce qu'elle appelle un destin fangeux.
Un destin fangeux, c'est un destin souillé par la morale.
Destin fangeux de Zaza. Mais en quoi a-t-elle payé sa liberté de la mort de Zaza ? C'est une phrase un peu compliquée.
La mort d'Elisabeth a hanté Simone de Beauvoir. Mais plus tard dans sa vie. Car à l'époque, en 1929, elle s'était un peu éloignée de Zaza. Et aussi de son cousin Jacques, d'ailleurs. À 21 ans, Simone de Beauvoir devait avancer et regarder devant elle pour s'accomplir.
Au bout du compte, la rencontre de Sartre, la déchéance de Jacques, qui prend des maîtresses, qui fait n'importe quoi, qui va se mettre à boire et qui mourra un petit peu déchu. La mort de Zaza, le soleil brille et le couple se constitue de Sartre et Beauvoir pour l'éternité.
Simone de Beauvoir, 1978.
Marseille a été ma première expérience de l'indépendance et de la solitude. Ma liberté me grisait et mon isolement m'effrayait. J'ai dû me suffire à moi-même. J'y réussis et je me rappelle cette espèce d'exil comme un triomphe.
En octobre 1931, Simone de Beauvoir est nommée professeure à Marseille, au lycée Montgrand. C'est son premier poste d'enseignante. De son côté, Jean-Paul Sartre a été nommé professeur au Havre. Comment appréhende-t-elle sa nouvelle vie dans le sud de la France ?
Elle la vit comme une séparation avec Sartre, dont elle parle, en disant d'ailleurs que Sartre a été jusqu'à lui proposer, voyant qu'elle le prenait très mal, jusqu'à lui proposer le mariage, qu'elle a repoussé avec horreur, puisque sa phrase célèbre n'est pas encore formulée et déjà là, le mariage est la plus pitoyable de toutes les relations humaines. Donc, pas question de l'épouser, mais donc ça veut dire la séparation. C'est pas seulement la séparation d'avec Sartre, c'est que ils ont conclu aussi ce fameux pacte. Ce pacte, c'est que on est ensemble et on est fidèles pour tant, pour X, une année, deux années. Puis ensuite, on reprend sa liberté, puis ensuite on peut signer un nouveau pacte ou pas.
Castor, puisqu'on y est, autant tout clarifier dans nos rapports. Pas de mensonge entre nous.
J'ai le mensonge autant que vous.
Je n'ai aucune vocation pour la monogamie.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Je vous aime comme un fou. Et je vous aimerai toujours. Mais je suis écrivain.
Et alors ?
Je ne veux pas vivre comme ces vieux cons de l'académie. Il me faut de l'air, de la nouveauté, de l'excitation. Vous seul m'êtes nécessaire, mais j'ai besoin de connaître des amours contingentes.
Qu'est-ce que vous entendez par contingente ?
Sans importance. Non essentiel. Le contraire de nécessaire, vous savez bien.
Le pacte est justifié pourquoi ? Non pas par chacun de nous a le droit à sa liberté. Non. Sartre aimait les femmes, bien, et ne voulait pas renoncer à leur séduisante diversité. Elle aurait pu dire « Je ne voulais pas renoncer à la séduisante diversité des jeunes hommes » ou des jeunes femmes, si on veut, ça m'est égal, moi, enfin, je veux pas renoncer. Non, Sartre ne voulait pas renoncer à leur séduisante diversité. Donc, elle accepte le pacte. Mais le pacte, c'est pas elle qui l'a voulu, et c'est pas pour elle qu'elle le signe. C'est très étrange, ça. Et je trouve qu'on ne l'a pas suffisamment commenté.
Pour ça, il faut une femme qui ait de l'audace, de la tripe. Et vous êtes celle-là.
Je ne suis pas celle-là.
Vous êtes d'une envergure exceptionnelle. Je vous connais mieux que vous-même.
Cessez de me flatter. Je ne suis pas dupe.
Je n'ai jamais été aussi sincère de toute ma vie. Je vous jure, Castor. Je vous propose un vrai pacte d'amour.
Leur refus des dimensions, de l'inconscient, de tout cela est total, puisqu'ils refusent la psychanalyse, etc. Bien. Moi, je ne suis pas non plus entiché follement de tout cela. Mais je sais très bien qu'on dit des choses qu'on ne maîtrise pas toujours. Et qu'on dit des choses qui sont liées à l'éducation qu'on a reçue, et où on se livre parfois plus qu'on ne voudrait. Et je crois que dans des phrases comme cela, elle se livre. Et c'est tout à fait intéressant, non pas pour lui faire un procès, mais pour compléter son image, pour l'enrichir. Lorsqu'elle dit « Sartre ne voulait pas renoncer à leur séduisante diversité », même très jeune, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Il va quand même, et elle ?»
Alors c'est d'accord.
L'idée de que revendiquer la même liberté n'apparaît pas. Bon.
Vous bluffez ?
Je ne veux plus rien faire comme les bourgeoises. Alors je vous prends moi. J'accepte le pacte.
Voilà. Donc, se séparer de Sartre, ça veut dire quoi ? Il est au Havre, elle est à Marseille. Ça veut dire que le pacte, il peut y avoir des coups de canif dans le contrat. La peur de la solitude, c'est une peur dont elle donne d'ailleurs aussi, dans les cahiers de jeunesse, mais aussi dans les mémoires, elle laisse entendre la dimension sensuelle et charnelle de cette séparation. Elle le dit à plusieurs reprises. Elle dit que son corps souffre de cette séparation. Elle le dit. Et ça, c'est bien qu'elle le dise, parce que c'est pas si fréquent, surtout à l'époque. Mais de cette séparation, elle la transforme en épreuve. Parce qu'elle est dans une vision, peut-être héritée du catholicisme qu'elle a reçu. On surmonte les épreuves. Et comme disait, je crois, mon prédécesseur à l'Académie, René Bazin, la vie n'est pas faite pour être vécue, mais pour être surmontée. Je ne partage pas du tout les mêmes positions que René Bazin, un siècle plus tôt. Mais l'idée que la vie doit être surmontée, c'est peut-être ce que le curé avait transmis à Simone de Beauvoir. Ce sont des épreuves. Elle arrive à Marseille, elle est en haut de l'escalier, elle regarde Marseille à ses pieds et elle dit « À nous deux, Marseille ». C'est Rastignac au Père Lachaise au moment « À nous deux, Paris ». Et donc, elle va conquérir Marseille.
Un amant, un turban. Il paraît que Mademoiselle de Beauvoir ne fait rien comme tout le monde.
Moi, j'appelle ça une poule.
Tu préférais une vieille bique ?
Bonjour. Asseyez-vous. Qui parmi vous a lu Gide ?
Maman me l'a interdit, mademoiselle.
Elle atteint. Dans la littérature contemporaine, c'est celui qui va le plus loin dans l'exploration des sensations.
Elle dit qu'il est immoral, mademoiselle.
Nous allons étudier les nourritures terrestres. Le héros est pédéraste. Silence.
Mes parents iront se plaindre à la directrice.
Qui d'autre veut déménager ? Bien. Je ne tolérerai plus aucune interruption de mon cours. Sortez vos cahiers.
Ses élèves, son travail, les paysages, la mer, les rochers, les promenades.
Vous dites les paysages, les rochers, la campagne. C'est important parce qu'elle va se mettre à randonner. Elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup marcher. Beaucoup. Elle va s'approprier l'espace marseillais.
Voilà. Elle le dévore. Elle le dévore, et d'ailleurs ce mot reviendra plusieurs fois. Elle dévore, elle absorbe, et elle est infatigable. Elle met une tablette de chocolat dans son sac, elle met des espadrilles, se griffe les pieds. Dieu sait que le maquis autour de Marseille ou sur les calanques, c'est pas toujours facile. Elle se griffe, elle s'écorche, elle se brûle au soleil.
Un chemin de croix.
Voilà, elle surmonte l'épreuve. Mais l'épreuve, elle la surmonte à sa manière, c'est-à-dire qu'elle conquiert le monde visible. Elle reprendrait certaines des belles images, des belles métaphores de la splendeur du visible, de la splendeur de la création. Donc, de cette épreuve, elle va sortir transformée, puisqu'elle l'a surmontée. Elle reviendra à Paris, et ensuite, ils se rapprocheront par les postes qu'ils auront eus. Mais Marseille demeure, en effet. Et là, cette manière d'être en haut du grand escalier, de regarder le paysage et de dire à nous deux, c'est extraordinaire.
«
Après cette riche année à Marseille, elle enseigne à Rouen, où elle fait la rencontre d'Olga Kozakiewicz, une de ses élèves, on en reparlera. En parallèle, ayez conscience qu'avant la crise économique des années 30, la France était une forte puissance mondiale, avec des conséquences diverses pour la bourgeoisie française.
C'est un moment où la France est une puissance industrielle. Ce qu'on a un peu trop oublié, c'est un des moments où le taux de croissance de l'économie française est le plus élevé par rapport au reste de l'Europe et où il y a des nouveaux secteurs qui se développent. Donc on a des nouvelles entreprises, on a des nouvelles opportunités, notamment les nouveaux secteurs, la chimie, l'industrie aéronautique, l'industrie automobile, tout ça, ça crée quand même des emplois et ça permet des promotions pour des cadres, des ingénieurs, etc. Donc on a ce type de bourgeoisie liée à la modernité, à la technique, qui va remonter socialement parce que ces entreprises se développent et accordent des avantages salariaux que n'avaient pas évidemment les entreprises traditionnelles. Et puis on a cette bourgeoisie un peu héritée du 19e qui, elle, au contraire, va connaître un déclassement progressif du fait de l'inflation, du fait de la perte d'une partie de son capital qui était placée à l'étranger et qui n'est plus récupérable. Et du fait aussi, on l'oublie, il y a une crise agricole dans la France de l'entre-deux-guerres. Les prix agricoles baissent. Alors, ça touche évidemment en premier lieu les paysans. Mais pour ceux qui sont propriétaires fonciers et qui comptent sur les revenus de leurs terres, en termes de fermage, évidemment, ça fait baisser aussi les revenus fonciers. Donc, on a aussi une partie de la bourgeoisie rurale qui va perdre. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer cette polarisation croissante au sein de la société française, disons, entre une France qui gagne et une France qui perd.
Non, moi, je comprends les Allemands. Hein. Hitler, Nuremberg, j'ai lu ce qu'ils en disaient la semaine dernière dans Je suis partout. Magnifique. Voilà, la démocratie souille, je crache dessus.
Et la montée des mouvements d'extrême droite en France, visiblement, se recrute principalement dans ces milieux de classe moyenne un peu en détresse, ou qui regrettent le bon vieux temps d'avant 1914, qui cherchent des boucs émissaires. C'est le développement de mouvements antisémites très violents, hein, dont l'apogée, c'est l'affaire Stavisky, et le 6 février 34, où tous ces mouvements se mobilisent pour essayer de bousculer le régime, parce qu'il le rendre responsable de leur malheur.
Écoutez-moi, toutes les banques, je dis bien toutes les banques, ont été victimes du même escroc nommé Stavisky.
On ne connaît pas ce Stavisky. Faut nous rembourser.
Alexandre Stavisky, un escroc soupçonné d'avoir été couvert par les politiques.
Donc, vous voyez, il y a une accentuation des écarts et ça se traduit par des mouvements politiques et des mouvements même qui essayent de sortir de la légalité.
Au moment de la crise du 6 février 1934, où la République est menacée par les ligues d'extrême droite, Simone de Beauvoir, 26 ans, observe les événements.
Simone de Beauvoir, dans La force de l'âge, 1960. Je ne suivis que d'assez loin toute cette histoire. J'étais convaincue qu'elle ne me concernait pas. Après l'orage, viendrait la bonasse. Il me semblait vain de m'inquiéter de ces tourmentes sur lesquelles, de toute façon, je ne pouvais rien. Dans toute l'Europe, le fascisme se fortifiait, la guerre mûrissait. Je demeurais installée dans la paix éternelle. Il me fallut beaucoup d'opiniâtreté pour m'en tenir à cette indifférence.
Il faut avoir à l'esprit que Simone de Beauvoir, comme beaucoup de Français, était pacifiste, convaincue qu'une guerre était impossible. Et lorsque le Front populaire gagne les élections en 1936, il y a comme une forme de soulagement.
Simone de Beauvoir, dans La force de l'âge, 1960. Nous comptions sur le Front populaire, à l'extérieur, pour sauver la paix, à l'intérieur, pour amorcer le mouvement qui aboutirait un jour à un véritable socialisme.
Notons également une forme de distance le soir de l'élection du Front populaire.
Je n'arrive plus à me rappeler où nous passâmes la nuit du 3 mai. C'était sur une place, à Rouen sans doute.
Allô, allô, dans quelques instants, la suite des résultats des élections.
Et des haut-parleurs annonçaient des chiffres qui nous comblaient de satisfaction.
La foule, en connaissant des résultats, fixés sur des tableaux lumineux.
Cependant, Sartre n'avait pas voté. Les prétentions politiques des intellectuels de gauche lui faisaient hausser les épaules. Notre abstentionnisme venait en grande partie de notre impuissance.
À l'automne 1936, Simone de Beauvoir a été nommée à Paris. Elle fait sa rentrée au lycée Molière. Elle décide de vivre au Royal Bretagne, un hôtel de Montparnasse, où descend Sartre, lui aussi. Ils ont chacun une chambre, entourée de ce qu'ils appellent la petite famille. Disons une communauté où les couples se font et se défont au gré des désirs.
Et cette famille, en effet, c'est quelque chose de très singulier. Ce sont des relations, c'est très complexe parce que ils n'ont pas tous le même âge dans la famille. Il peut y avoir des figures d'amants ou d'amantes plus âgées qui ont donc une relation de guide à l'égard des plus jeunes, qui peuvent d'ailleurs s'y plier ou non. Par exemple, Olga, qui sera un enjeu entre Simone de Beauvoir et Sartre, elle ne se plie pas très bien à tout cela. Elle est résistante. Et bien, il était très difficile de leur résister, mais c'était bien qu'elle essaie.
Olga, c'est l'élève de Rouen, arrivée à Paris.
C'était bien. Donc, ils vont constituer cette famille. Et alors, en même temps, ça les rend complètement apolitiques et étrangers au monde. Le monde extérieur, les grands enjeux qui sont en train de se dessiner, ce n'est pas leur préoccupation première, immédiate, pas du tout.
Simone de Beauvoir, dans La force de l'âge, 1960. Nous refusions de toucher à la roue de l'histoire, mais nous voulions croire qu'elle tournait dans le bon sens. Sinon, nous aurions eu trop de choses à remettre en question.
Avant le Front populaire, il va y avoir des mouvements de masse, des mouvements de droite, des mouvements d'extrême droite, tentatives plus ou moins putschistes de l'extrême droite. Et elle a une phrase pour dire, au fond, on ne s'impliquait pas là-dedans, nous étions des elfes. Alors moi, je me suis demandé pourquoi nous étions des elfes. Pourquoi le dit-elle, à mon avis, c'est à cause de Charles Trenet. Parce que Charles Trenet, dans une de ses chansons, parle des elfes. Et je pense que Charles Trenet avait une telle force de fascination sur les jeunes gens de cette époque, de tous les milieux, et certainement aussi, bien qu'elle n'en parle jamais, j'en suis persuadée. Je pense que ce mot d'elfe leur est venu de là, et qu'il dit très très bien ce que c'est-à-dire des gens qui flottent, qui butinent, qui vont de fleur en fleur. Pendant ce temps-là, le monde est en train de brûler.
Les elfes, divinité de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. Je suis heureux, ça va de plus fin, et je chante sur mon chemin.
En conclusion de ce deuxième épisode, ayez en tête que l'entre-deux-guerres correspond à la première étape du voyage de son émancipation. Une fois diplômée, Simone de Beauvoir doit se libérer d'un monde ancien. Et c'est son unique priorité. Elle se concentre sur elle-même pour s'inventer une nouvelle vie, au point de ne pas être consciente de la tragédie qui s'annonce. Comment l'invasion des troupes allemandes et l'expérience de l'occupation à Paris vont changer le destin de Simone de Beauvoir, c'est l'horizon du prochain épisode.
Monsieur Paul Reynaud, président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la guerre, vous parle.
6 juin 1940.
La France a été envahie 100 fois et jamais abattue. Notre foi dans la victoire est intacte.
Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Éric Lancien. Lecture, Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem, Frédéric Martin et Aurore Juvenel. Chronologie des faits, Sylvie Lebon de Beauvoir, aux éditions Gallimard. Mixage, Basile Bocquer et Benjamin Orgeret. Prochain épisode, dans le fracas du siècle. Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie, est un podcast original de France Inter.